Il est 7h47, Léa Salamé, votre invitée ce matin est une chanteuse que l'on adore.
Bonjour.
Bonjour.
Chris, Christine, Héloïse, je dis quoi? Je dis bonjour qui?
C'est confus, hein?
Ah oui, c'est beau. Confus.
Moi j'aime bien Chris parce que c'est la façon la plus simple de m'appeler aujourd'hui.
Bonjour Chris, alors.
Bonjour.
4 ans après l'immense succès international de votre premier album Chaleur Humaine, vous revenez avec un nouvel album baptisé donc Chris, votre nouveau nom. Mm-hmm. Un disque d'amour, un disque de risque, un disque de provocation, dites-vous. Où est le risque et où est la provocation dans ce disque?
Je pense qu'il est à plusieurs endroits. Je pense qu'il a été artistique aussi parce que j'ai décidé de faire un album très personnel et de le produire toute seule et de pas m'entourer de bouclier ou de sécurité. Et je pense qu'il est aussi dans ce que je raconte. En fait, j'ai l'impression, moi, de m'être risquée au-devant de moi parce que cet album parle beaucoup du désir. Mais j'ai l'impression que de parler du désir en étant une femme de façon très crue, parfois, c'est un risque aussi.
C'est vrai que c'est un disque érotique.
Oui, c'est vrai.
On peut le dire.
Oui, oui, totalement.
C'est un disque joyeux et libertin.
Ouais, c'est beaucoup plus charnel que mon premier album, c'est vrai. Mais en même temps, c'est assez drôle parce qu'il y a continuation de la problématique entre le premier et le deuxième. Parce que dans mon premier album, il y a la chanson qui s'appelle Chaleur Humaine et c'est la première phrase, c'est Je suis contre les chastetés. Ce qui pourrait être le sous-titre, je pense, de Chris, le deuxième album.
Ouais, donc c'est une belle suite. On écoute Chris.
Je me fais la nique, les mains dans le blouson. Mon corps me pique, c'est la salaison. Quand ils l'ont de leurs bras, elle rit de bonté. Tic tic tac, ça semble écrit sur le papier. Ma tristesse infecte la.
Comment on fait quand on a été célébré comme vous l'avez été sur votre premier album, près d'1,5 million d'albums vendus, quand le New York Times vous encense, quand Madonna vous adoube, quand le Time Magazine vous classe parmi les leaders les plus importants du monde? Comment on redescend? Et d'ailleurs, est-ce qu'on redescend?
Mais est-ce qu'on monte? En fait, la vraie question que moi je me suis posée à un moment, c'est je recevais tout ça et c'était magnifique, mais ça restait presque en superficie, quoi. J'avais du mal aussi à accepter que ça se passe aussi vite, aussi fort. Et peut-être qu'aussi je me suis protégée d'une certaine façon. Enfin, j'en revenais toujours à l'écriture et à l'artistique et au concert chaque soir. Donc j'étais dans des logiques presque animales, quoi. J'étais pas en train d'intellectualiser la situation.
Il y en a qui ont mal vécu le succès quand il arrive de manière soudaine. Je pense notamment à Stromae qui a dit qu'il avait déprimé après. Pas vous. On a l'impression que, contrairement à ce que dit Madame de Staël, la gloire n'est pas le deuil éclatant du bonheur chez vous.
Non, c'est vrai, mais peut-être parce que du coup, je m'en suis volontairement écartée, ou je l'ai pas entendu, ou j'ai laissé le bruit. J'ai toujours été un peu obsédée par le désir, et j'en parle dans cet album, mais c'est aussi ça, le succès, c'est un peu comme le désir de quelqu'un. C'est-à-dire que tu peux ni le forcer, ni le prévoir, et c'est magique, et ça arrive, et parfois ça disparaît. Donc je me suis presque dit que ça arrivait un petit peu tôt, et j'avais presque peur que ça disparaisse trop vite aussi.
Alors le désir, vous dites, je désire des hommes, des femmes. Vous êtes devenue une icône, une incarnation de ce qu'on appelle l'indécision du genre. Ça vous va, ça, de dire ça?
Ah oui, ça me va bien, une incarnation de l'indécision.
Une incarnation de l'indécision, c'est plutôt joli. Pourquoi on n'a jamais autant parlé du mélange des genres? Comment vous l'expliquez?
Je pense que c'est un sujet de conversation qui devient une vraie discussion maintenant. Moi, je trouve que ça arrive un peu tard dans la discussion, en vérité. Je pense qu'on aurait pu en parler plus tôt et mieux et... Je sais pas, c'est peut-être symptomatique aussi d'une société qui bouge, quoi. Je pense que une fois qu'on commence à formuler les choses, on les déconstruit aussi. Je pense que plus on parle du genre, plus on se rend compte que c'est du théâtre aussi, que c'est une performance, que c'est des choses qui peuvent enfermer. Et plus on en parle, plus on déconstruit ça, et plus ça laisse place à des façons d'exister plus douces aussi.
Et pourtant, ce genre dont on parle tout le temps en permanence dans les magazines féminins, dans la littérature contemporaine aussi, malgré tout ça, malgré ces évolutions, vous dites, nous sommes toujours à Hétéroland.
Oui, c'est vrai.
Vous trouvez?
Ah ouais, je trouve encore. Oui, je trouve que les normes sont encore là. Enfin, les discussions commencent, mais entre une discussion et des changements profonds, c'est pas du tout la même chose. Et d'ailleurs, c'est terrible, il y avait des gens des fois qui me disaient dans la rue, mais c'est très malin de parler de ta sexualité. Mais j'étais, ah, c'est pas malin. Enfin, moi, c'est nécessaire parce que ça fait partie de mon travail d'artiste. Ce qui me fait peur parfois, c'est que ce soit presque une mode. On parle toujours de surface.
Ça, c'est votre risque. Je voyais le Parisien qui titrait sur vous il y a quelques jours, le Parisien Magazine, et qui disait vrai talent ou pur produit marketing. C'est terrible qu'on vous accole ça, forcément, parce que vous réussissez.
Oui, bah ça c'est le grand débat classique aussi. Moi je trouve que c'est un peu français aussi ça, parce que le succès est arrivé sur un projet qui n'était pas forcément destiné à ça. Enfin moi j'ai pas une formule magique pour savoir comment être commercial. Ça m'est arrivé aussi, ça m'arrivera peut-être plus.
Vous allez dire que la France n'aime pas le succès, les Français n'aiment pas les gens qui réussissent?
Je pense qu'il y a une relation un petit peu compliquée au succès. Enfin en tout cas moi je me rends compte que des fois je traverse une frontière et que c'est plus les mêmes discussions.
Moi je m'épanouis comme femme phallique. Dites-vous, c'est quoi une femme phallique?
C'est la formule qui claque, ça.
Ah oui.
En fait, j'utilise, avant que ce monde tombe et ces vieilles catégories tombent, hein, j'utilise ces mots-là pour provoquer un certain déplacement dans l'esprit des gens. Femme phallique, ça peut paraître presque comme un oxymore, quoi. Phallique, en fait, et phallique encore, malheureusement, ce qui est lié à la puissance. Enfin, c'est encore très masculin, les domaines de puissance. Donc moi, je décide d'utiliser, de voler un petit peu au patriarcat. Je suis technique ce matin. Et pour essayer de me décrire. Moi, j'ai envie de raconter ma puissance. Mais c'est quelque chose d'assez lumineux. C'est juste une façon de travailler une féminité différente.
Ça continue à déranger, non, les femmes puissantes?
Oui, je trouve. Il y a toujours une façon de, en tout cas, de devoir excuser la puissance encore. Enfin, à un moment, quand j'écrivais l'album, j'étais un peu obsédée par Madonna pour ça, parce que c'est quelqu'un qui n'excusait pas du tout sa puissance, et je trouve ça encore très 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 moderne.
D'ailleurs, quelqu'un vous a dit, fais attention, ne vire pas comme Madonna. Madonna, elle contrôlait tout, elle était femme phallique, femme puissante, ouais. Et du coup, ça l'a endurcie, attention de t'endurcir, c'est étonnant.
Oui,
c'est
et ça,
étonnant,
ça l'a surtout isolée, en fait. Enfin, c'est surtout que ça crée un champ de force qui isole. Enfin, d'ailleurs, quand dans un très beau documentaire sur Madonna, dans les années 90, qui s'appelle In Bed with Madonna, on constate qu'en fait c'est pas tant elle qui s'endurcit que les gens qui s'éloignent. Parce que je pense qu'elle défendait quelque chose de complexe en fait, elle défendait une identité féminine complexe.
Lady Gaga dit aussi ça, elle dit peu importe mon succès, peu importe mon talent, quand je suis en studio avec des hommes, on me fait toujours sentir que je ne suis rien sans eux.
Oui, ça c'est très vrai, mais moi j'ai pu l'expérimenter aussi. Mais d'ailleurs c'est aussi lié à une réalité qui prouve encore une fois que toute la technicité et la puissance est toujours un petit peu plus masculine. Dans des studios, il y a très peu d'ingénieurs du son femmes. Mmh. C'est-à-dire qu'il y a toujours des techniciens globalement masculins. Et donc on se confronte.
On en a quelques-unes à France Inter.
Ben, c'est bien. Et d'ailleurs, en Angleterre, récemment, j'ai vu trois ingénieurs femmes dans un studio, mais c'était la première fois que je voyais ça. Donc ça reste aussi. Il y a plein de territoires qui restent très masculins et qu'il faut investir.
Vous gérez tout, la musique, votre image, votre pochette, tout. Vous contrôlez tout, vous avouez être une maniaque du contrôle, un peu à la manière de Madonna, justement. Qu'est-ce qu'elle cache, cette obsession du contrôle? Qu'est-ce que vous avez peur qu'on découvre, que vous ne voulez pas montrer?
Alors ça, par exemple, c'est une question que je trouve toujours très intéressante, parce que je ne sais pas si on la pose pareil à des hommes. Parce que le côté maniaque et obsessionnel, c'est juste qu'en fait, j'aime écrire et j'aime décider. Et quand j'écris une chanson, j'ai des idées de vidéos. C'est juste très naturel pour moi parce que je pense que ça vient aussi du fait qu'avant de faire la musique, je voulais être metteur en scène. Mais ça, c'est des questions, par exemple, le côté très contrôle fric et qu'est-ce que ça cache et est-ce que c'est tyrannique? En vrai, je trouve qu'on ne pose pas trop ces questions-là à des hommes qui décident tout.
Alors moi, c'est une question que j'ai posée à Xavier Dolan. Parce qu'il est comme vous, il fait attention à
c'est
tout.
Vrai. Jusqu'au costume et tout ça.
Voilà. Qui est un homme. Mais vous avez raison, sans doute on la pose davantage aux femmes. La revanche de la médaille du succès, c'est que vous êtes attendue au tournant, Chris. Mmh. Et du coup, cet été, vous n'avez pas été loupée avec cette polémique sur un éventuel plagiat. Est-ce que vous pouvez clarifier une fois pour toutes, pour qu'on n'en parle plus?
Expliquez
pourquoi
c'est...
le mot plagiat n'est pas juste.
Alors, c'est-à-dire que je veux bien reclarifier, mais j'ai l'impression de passer mon temps à le faire. Ouais. J'avais écrit un petit texte sur Twitter, mais reclarifions. Pour composer mon premier single, j'ai utilisé des boucles libres de droit. Libres de droit, ça veut dire que c'est légal de les utiliser. C'est comme un sample qui n'a pas de droit, quoi. C'est-à-dire qu'au lieu de...
C'est comme quand Gainsbourg utilise du Chopin.
C'est pareil. En fait, en gros, j'ai samplé quelque chose, mais au lieu d'avoir pris une chanson de Janet Jackson, qui pourrait être très connue, j'ai pris des boucles qui sont démocratiquement dans un logiciel de musique. Mais je ne suis ni dans le plagiat, ni dans le vol. J'aimerais peut-être un jour être totalement rebelle, mais c'est pas encore le cas tout de suite.
Ça vous a blessé qu'on mette en cause votre intégrité d'artiste?
Ben, j'ai trouvé ça, encore une fois, j'ai trouvé ça un peu symptomatique aussi de, peut-être du cap du deuxième album et d'un certain backlash inévitable. Et aussi, j'ai trouvé ça un peu symptomatique d'une discussion où je parlais tellement d'être productrice, moi, que j'ai trouvé qu'il y avait des gens qui avaient une certaine gourmandise à dire que j'étais une imposture. Mais j'invite les gens à décortiquer mes productions plus souvent. Parce qu'en vrai, j'y travaille tellement que j'aimerais bien qu'on en parle, mais pour toutes mes chansons.
On le fera. Il y a un titre qui s'appelle La Marcheuse dans le nouvel album. Est-ce que c'est un hommage au marcheur d'Emmanuel Macron?
Non, pas vraiment. C'est pas vraiment la même façon de marcher. Il y a plein de marches différentes. Non. Moi, c'est plutôt la marche du déserteur, quoi.
La marche du déserteur. Vous parlez, c'est ma dernière question, vous parlez de Balavoine en disant « J'aime bien son engagement premier degré, ses messages humanistes premier degré. Aujourd'hui, il faudrait être toujours ironique ou détaché, sous peine d'être traité de vulgaire. » C'est vrai, ça, vous arrivez à résister aux besoins de cynisme de second degré ou de troisième degré de la société aujourd'hui? Vous êtes un peu premier degré?
Ben, en tout cas, dans l'écriture musicale et dans ce que je fais sur scène, oui. Enfin, je pense pas que j'ai pas de cynisme ni d'ironie, mais c'est vrai que l'espace d'écriture Et même l'espace de l'écriture d'une chanson de variété, pour moi, est merveilleusement premier degré aussi. Parce que je trouve que c'est l'espace du sentiment, quoi. Donc, le cynisme, c'est super, mais ça court-circuite le sentiment. Et moi, j'ai pas du tout envie de ne plus avoir de sentiments.
Merci beaucoup. Merci. L'album s'appelle Chris, comme vous. Mmh. Il est merveilleux, mais ça, tout le monde va le dire. Mais ouais, en tout cas, c'était bien de vous entendre. Merci beaucoup et belle journée à vous.
Merci Léa. On vous retrouve à 8h20. Chris, donc, en concert exceptionnel ce soir à 20h sur Inter, en direct du studio 104.